Materia. Ars materia.
Ars materia. Savoir-faire.
Habileté.
Qualité de celui qui sait.
Qualité de celui qui sait.
Matériau.
Materia.
Art.
Matériau.
Savoir-faire.
Essence des choses.
Principe.
Art. Matière.
Science.
Ars. Habileté. Savoir-faire. Essence des choses.
Ars materia.
Un artiste. Un matériau. Un savoir-faire. Ars materia, c'est l'histoire de cette rencontre. Aujourd'hui, Émilie Rouillon, bannière, nous accueille dans son chaleureux atelier ardéchois. Un atelier habité de formes arrondies, élégamment et vigoureusement tressé d'osier. Elle nous parlera d'elle, de son métier, et de sa relation fidèle et déterminée à la terre nourricière. Il y sera question de volcans, de voies de gorge, d'une grotte idéale et d'une théorie de la fiction panier.
Émilie Rouillon. Vous êtes une artisan d'art qui pratiquait la vannerie, un art qui est d'une manière bien trop exclusive associé à la réalisation de paniers. La manière que vous avez d'exercer la vannerie prouve que cette technique de tressage peut produire quantité d'objets différents, utilitaires ou non. Vous êtes installé à Sarras, en Ardèche, à quelques kilomètres de Saint-Vallier. Pourriez-vous nous dire dans quelles conditions se sont effectués vos premiers pas dans la vannerie ?
Alors, à la base, la vannerie, c'est une reconversion professionnelle. Donc, à la base, j'étais accompagnatrice en moyenne montagne. Et j'ai commencé, du coup, la vannerie en tressant des végétaux sauvages pendant des randonnées. D'abord toute seule, après avec des clients. Et puis, j'ai rencontré un ancien avec qui j'ai fait un petit peu de vannerie traditionnelle ardéchoise, une vannerie sur arceaux, dans une petite association. Et puis, quand j'ai décidé d'arrêter d'être accompagnatrice en montagne, parce que du coup, j'étais saisonnière et je déménageais tous les 6 mois, quand on a décidé de s'installer où on est aujourd'hui, il a fallu que je pense reconversion. Et du coup, ça pouvait être qu'une reconversion qui était respectueuse de l'environnement. Voilà, j'avais choisi le métier d'accompagnatrice en montagne par rapport à ça. Accompagner les gens en montagne, découverte du milieu. Et du coup, si je me reconvertissais dans une autre activité, il fallait que ça puisse répondre à ces critères-là. De respect de l'environnement, de respect de l'humain. Et du coup, en réfléchissant un petit peu à tout ce qui était possible, eh bien, c'est la vannerie qui est apparue. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'aller me former à l'École nationale de vannerie, en Haute-Marne, à Faille-Billot.
À l'époque, y a-t-il eu d'autres activités qui avaient retenu votre attention ?
J'étais quand même pas mal sur ce qui était un peu métier d'art, donc ça aurait pu être aussi tout ce qui est autour du bois, le tournage m'intéressait. Voilà, j'avais un petit peu regardé ce côté-là. Et après, sinon, il restait de rester dans l'environnement vraiment et de repartir sur soit des études autour de l'environnement, cet axe-là. Mais c'est le côté manuel qui a primé.
Quoi qu'il en soit, le rapport à la nature est très important.
Ah oui, c'est essentiel. Je pourrais pas, même si je dois me reconvertir un jour, ça restera dans les valeurs que j'aurai pour choisir ma reconversion.
Entendu. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les conditions matérielles dans lesquelles vous travaillez ?
Alors du coup, on est installé. Je suis installée dans une ancienne ferme. Mon atelier, c'était même une écurie à la base qu'on a complètement rénovée. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé vraiment à m'installer en poussant les affaires de l'écurie pour pour me faire ma petite place quand j'ai commencé. Et puis au fur et à mesure, et ben voilà, on a isolé, agrandi pour avoir un espace, un bel espace de travail, parce que ben on prend vite quand même pas mal de place quand on va tresser. Ça dépend quel type de vannerie on décide de réaliser, mais on peut vite avoir des brins qui font 2 mètres d'envergure autour de nous. Donc on va, voilà, on a 5 mètres autour de nous qui ont besoin d'être un peu libres avec de la place pour travailler. Donc voilà, on a aménagé cet espace-là. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai même un poêle à bois maintenant depuis quelques années. Donc, j'ai travaillé dans des conditions pas toujours idéales, mais petit à petit, les choses se sont faites. Donc, aujourd'hui, je suis privilégiée. J'ai un bel atelier, bel espace de travail. Après, j'ai besoin de très peu d'outils pour faire de la vannerie. On est un très ancien métier, pas mécanisé. Donc, du coup, on n'utilise que quelques outils de base. Un sécateur, une batte, une serpette, un mètre si on veut tenir des dimensions. La batte, c'est pour serrer notre travail. Voilà, on est assis près du sol sur un banc. Et puis, on a une petite table de travail inclinée. Donc, voilà, des poinçons, mais voilà, très, très peu de choses. Des fois, on peut avoir besoin d'un peu plus, mais en gros, c'est assez succinct. C'est surtout nos mains, la matière et l'eau. Puisque du coup, il va falloir tremper notre matière pour qu'on puisse la travailler et la tresser. Donc, il faut des bacs de trempage aussi.
Donc, le losier que vous utilisez, c'est le losier que vous achetez ou que vous cultivez vous-même ?
Alors, moi, j'en ai un tout petit peu, mais ce n'est pas significatif. Quand je suis sortie de l'école, le but, c'était ça. C'était d'avoir aussi ma propre oserie et de tout faire sur place. Sauf que je n'ai pas réussi à négocier les terrains que je voulais et qu'il faut quand même des terrains qui ont une bonne rétention en eau pour faire un bel osier. Et que là, on est sur de la terre à vigne. Donc, j'en ai un petit peu qui a été planté, qui était c'est une sorte de petit salicétum avec plusieurs variétés pour voir justement celles qui auraient été intéressantes à planter ici. Et puis, comme j'ai pas réussi à avoir les terrains, je suis jamais passée vraiment à l'acte de plantation. Et puis, c'est un autre métier, c'est agriculteur. Donc, voilà. Sur l'idée, ça m'intéressait, hein. Mais en fin de compte, je me rends compte que j'ai même pas encore le temps de faire tout ce que je veux faire en tressage. Donc, s'il faut cultiver en plus, ça enlève du temps de tressage. Et puis, il y a des osiers agriculteurs, des collègues qui font ça parfaitement bien. Et puis, ça me laisse même plus de liberté puisque je peux aller chercher des osiers différents chez chaque osier agriculteur. Là, moi, je m'auto-limiterai parce que j'aurais pas plein de variétés différentes. Donc, au final, c'est bien.
d'aller.
Écouter The Chemical Brothers, Rock and Beat, un morceau que Emily a choisi pour nous. Quel rapport entretenez-vous avec cette musique particulière ou la musique en général?
Alors, ce morceau particulièrement, c'est quand j'ai des coups de moins bien, parce que ça arrive, ou des coups de doute, ou des coups de fatigue, ou voilà. C'est le morceau que je me mets à fond. Que je monte le son à fond et je prends voilà, ces quelques minutes là pour l'écouter, et généralement ça suffit à me redonner de la pêche, et parce que bah c'est très rythmé, et voilà, et donc je me laisse emporter par ce morceau, et c'est un morceau qui me fait du bien. Du coup, après, c'est vrai que voilà, c'est assez particulier, c'est pas forcément quelque chose que j'écouterai toute la journée en boucle, mais c'est salvateur des fois.
Je comprends. En tout cas, ici vous pouvez monter le son parce que ça dérange personne.
Non, là j'ai cet avantage.
Pourriez-vous nous donner quelques indications sur la manière dont vous travaillez, les petites habitudes, des horaires, des temps particuliers pendant lesquels vous êtes la plus productive possible?
Alors, je travaille 5 jours par semaine. Hein. Une fois que mon fils est à l'école, je me mets au travail jusqu'à ce qu'il rentre de l'école. Des fois ça arrive que ça déborde le soir après le coucher de mon fils. Si les journées peuvent être assez longues, ça dépend un peu sur quoi je suis, mais en tous les cas voilà, j'ai vraiment un rythme où je fais mes 5 jours de travail minimum dans la semaine, vraiment à l'atelier. Et du coup, après, c'est vrai que l'osier, c'est une matière qu'on fait tremper pour travailler et qui sèche. Donc, du coup, si on part sur des très grosses pièces, eh bien, il y a des fois, c'est pas très opportun de s'arrêter en plein milieu, ou en tous les cas, si on va prendre plusieurs jours pour faire une pièce, eh bien, il faut pouvoir enchaîner. Et donc, du coup, on peut faire un petit peu des journées à rallonge. Voilà. Mais j'ai vraiment un rythme régulier de travail.
Des grosses pièces, par exemple, ça peut être des nacelles de montgolfière?
Ouais. C'est ça. Voilà, c'est en volume, je pense que c'est ce que j'ai fait de plus gros. Ça fait 1 mètre par 1 mètre par... même un peu plus, 1 mètre 40 par 1 mètre 20 par... voilà, 1 mètre 10. Là, une nacelle, c'est 100 heures de travail. Là, même les nacelles que j'ai faites, elles sont faites en rotin entier. Donc, c'est une matière qui est très raide, qui est du coup très physique à tresser. Généralement, on les fait à deux, parce que c'est pareil, c'est pas, voilà, ça permet d'aller plus vite, de moins laisser le temps à la matière de sécher. Mais du coup, ça veut dire que c'est une semaine de 50 heures, quoi. Il faut que la nacelle, elle soit tombée. Voilà. Donc, c'est 50 heures intenses de travail physique. Mais ça peut être aussi, des fois, sur des pièces de création. La pièce que j'ai fait, c'est pas le volume, mais par rapport à la technique et à la rapidité de tressage, qui est très lente du coup, et ben j'ai passé plus de 3 semaines sur une seule pièce. Voilà. Donc du coup, dans ces moments-là, il faut quand même faire beaucoup d'heures parce que il faut pas que la matière on la laisse sécher.
À propos de matière, donc vous utilisez une technique de tressage de losier essentiellement, mais j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres matériaux qu'on pouvait tresser ailleurs dans le monde,
exact.
Ou ici.
Ouais. Et ben alors du coup moi j'utilise à 90% on va dire losier. Pour répondre à la commande, je peux travailler le rotin. Le rotin, c'est une plante justement d'importation qui vient principalement d'Indonésie. C'est un peu compliqué. C'est les forêts tropicales, etc. Donc c'est pas ma matière de prédilection du fait qu'elle soit exportée. Par contre, c'est une matière magique au niveau de la mécanique, hein, de la matière. Et puis après, en France, il y a plein de techniques de vannerie différentes qui utilisaient d'autres matériaux. Au niveau des bois, le noisetier, le châtaignier, le pin. Alors après, ils vont tous se préparer de façon différente. Souvent, les bois comme ça vont être fendus pour faire des lattes. Mais après, on peut tresser avec des herbes aussi, en France comme dans les pays du monde. On peut tresser le houblon, la ronce. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut tresser différentes, déjà au niveau du végétal. Hein. Et après, en fonction de chaque pays, chaque matériau a permis de développer une technique particulière. Voilà, si on tresse des herbes, forcément, on va développer d'autres techniques qui vont être cousues. Alors que si on coupe des arbres pour en sortir des lattes, on ne va pas être du tout sur les mêmes techniques.
Voici le deuxième son que vous avez choisi pour nous, Émilie. Un son de la terre, le bruit d'un volcan. Le volcan dont vous faites volontiers une métaphore de l'être humain. Pourriez-vous nous expliquer ceci ?
Oui, alors je suis fascinée par les volcans. Depuis longtemps, c'est un élément de la Terre qui me parle, qui vibre. Et du coup, j'ai travaillé sur une série, notamment là, en tressage, autour de la thématique du volcan. Alors, je m'étais jamais rendu compte, jusqu'à ce que quelqu'un me le fasse remarquer, que j'ai grandi en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et qu'il y a la chaîne des Puys. Et j'avais jamais fait le rapprochement, peut-être, avec cette attirance avec la chaîne des Puys, et pourquoi les volcans depuis le début. Et voilà, on me l'a fait remarquer, j'ai fait mes études de droit. Donc, à l'origine, j'étais partie un peu sur cette voie-là, donc à Clermont-Ferrand, donc au pied du Puy-de-Dôme. Alors, est-ce que ma fascination pour les volcans, elle est née là? Je ne sais pas. J'ai quand même cette attache-là particulière, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, pour moi, ça représente vraiment un peu l'être humain, dans le sens où un volcan, ça peut être complètement destructeur. Bon, on le voit actuellement avec l'île de La Palma, où ça peut détruire des pans entiers d'une île avec la civilisation qui s'est construite dessus. Mais en même temps, si cette civilisation, elle est là, c'est parce qu'avant tout, le volcan, il a construit l'île. Et donc, du coup, c'est pareil pour l'homme. On peut être complètement destructeur, on peut tout ravager, mais on est aussi capable de construire des belles choses ou de repartir des ruines qui ont été faites par d'autres pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Et à chaque fois, le volcan, c'est ça, c'est qu'il va détruire, mais en même temps, il fertilise les terres. Et si les hommes, ils sont en bas des volcans, c'est parce que les terres, elles sont fertiles. Et voilà. Et il y a vraiment ce rapport-là, toujours, de se dire, eh ben, c'est sublime. L'être humain, il peut être sublime, et puis il peut être complètement incohérent, destructeur, ravageur, quoi. Voilà. Et je trouve que le volcan est assez symbolique de ça. Voilà, ma fascination un petit peu. J'ai eu la chance d'en voir un en activité il n'y a pas longtemps en Islande. Voilà. Donc ça renforce encore ce lien-là à la Terre. Et puis c'est vraiment, j'ai senti la terre respirer quoi, en Islande, avec vraiment le souffle qui vient du sol quoi, et puis la respiration qui a fait une pause et puis c'est reparti. Et ça c'est, moi émotionnellement je trouve ça extraordinaire de se dire qu'on est juste des petits êtres sur cette planète quoi, et que cette planète de toute façon elle fait sa vie et elle respire, elle n'a pas besoin de nous, nous on a besoin d'elle, mais elle n'a pas besoin de nous. Et du coup, ça nous recadre assez bien.
Nous reviendrons sur cette problématique de l'homme destructeur et de la terre nourricière avec un autre document que vous nous avez soumis, un texte d'Ursula Le Guin. Mais j'aimerais avant ça que vous nous disiez s'il y avait dans votre parcours des choses, et dans votre enfance peut-être, qui font que l'activité que vous pratiquez aujourd'hui vous semble cohérente. Est-ce qu'il y avait des éléments annonciateurs de ce que vous êtes devenu maintenant ?
Alors, oui et non. oui, dans le sens où j'ai grandi à la campagne, avec mes deux sœurs et mes parents, et du coup on a toujours eu une relation à la nature, du coup du fait du jardin, du fait de ce qui nous environnait, et donc un regard sur la nature. Je suis pas une citadine à la base, mais par contre du coup j'ai voulu faire tout l'inverse dès que j'ai grandi, c'est-à-dire que je voulais habiter à Paris, je voulais avoir une grosse voiture, je voulais être à l'opposition du coup de ce qui m'était offert de connaître. J'ai commencé des études de droit, aussi avec des valeurs, défendre la veuve et l'orphelin. J'étais vraiment sur cet objectif-là par rapport au droit, par contre. J'ai déchanté pendant mes études. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas forcément comme ça, que c'était des combats beaucoup plus compliqués que justes. Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai décidé d'arrêter mes études de droit, je suis repartie plus... je suis repartie de la base, quoi. Donc, du milieu naturel, du calme, de la campagne. Et c'est là que j'ai été me former en tant qu'accompagnatrice moyenne montagne. Et que je me suis rattachée de nouveau au végétal. Moi, mon lien, c'est la nature végétale et minérale. C'est les deux côtés qui m'intéressent. Et du coup, j'ai fait mes études d'accompagnatrice. J'ai encadré des gens. Et la vannerie, elle est arrivée comme ça, quoi. Mais du coup, c'est juste que je me suis mis en opposition pendant un moment. Et puis, ça m'a rattrapée derrière.
OK. Alors, on y reviendra justement après la lecture du texte que vous nous avez proposé, mais le fait que vous travaillez sur des contenants, sur des récipients, sur des choses qui permettent le transport, même le transport aérien en montgolfière, ça, c'est un élément important pour vous dans votre travail?
Oui, et c'est même ce qui est un peu complexe pour moi des fois, c'est parce que j'ai une part d'activité qui est vraiment de la création pure, où on sort du contenant, on sort de l'utilitaire, et en même temps je me défais pas de ce côté-là utilitaire, du contenant, de l'élément qui protège, qui englobe, qui rassemble, voilà. Et du coup j'abandonne pas... Voilà, je pourrais partir sur une activité complètement artistique, on va dire, ou décider de rester sur une activité complètement utilitaire. Et en même temps, j'arrive pas à faire un choix, donc je fais les deux, parce que j'ai des choses que j'ai envie d'exprimer. Et donc avec le côté plus artistique, et puis en même temps, je reste attachée à vraiment l'objet qui va contenir.
Donc deux approches qui sont complémentaires et qui ne sont pas en opposition?
Non.
Un peu comme deux jambes qui nous servent à arpenter la terre?
Oui, Ouais, oui, c'est un équilibre entre les deux, quoi. Et puis, et moi, j'ai besoin des deux. Et puis, j'arrive pas. J'aime trop de choses pour faire un choix catégorique de dire j'en abandonne une, quoi.
Dans vos œuvres plus personnelles, il reste quand même un aspect utilitaire, même si on peut les exposer comme des œuvres à part entière. Il y a quand même le sentiment que même si les choses sont déformées ou semblent prendre une vie un peu végétale en se développant dans l'espace, on a quand même l'impression que ça peut contenir des choses. Mais alors, on se pose la question sur quel type de choses peuvent être contenues par vos propositions.
Alors, je pense jamais quand je crée une pièce si elle va pouvoir, dans mon travail plus personnel, si elle va pouvoir contenir quelque chose ou pas. Ça, c'est pas mon propos à ce moment-là. J'exprime quelque chose. Des fois, en effet, on peut retrouver un usage où on peut l'exploiter en tant que tel. Et puis, il y a certaines pièces, dont les dernières que j'ai réalisées, plus sur l'idée, la thématique des murs, où là, l'usage, on s'en éloigne vraiment. Mais voilà, c'est pas un propos pour moi. Quand je suis dans ces pièces-là, je m'interroge pas et puis je me dis, si les gens trouvent une utilité à l'objet au-delà de sa fonction juste décorative ou émotionnelle ou expressive, c'est très bien.
Et puis vous y opposez pas.
Non, c'est à chacun se l'approprie après.
Okay. Dans votre travail, on sent une importance vraiment particulière accordée aux couleurs. Est-ce que c'est un élément qui arrive assez tôt dans vos projets ou bien est-ce que c'est au fur et à mesure qu'il se développe que ces couleurs apparaissent?
Alors pour l'osier, du coup, les couleurs, ce sont les écorces des osiers qu'on a gardées. Généralement, il y en a quelques-uns que je peux teinter, mais voilà, sinon ce sont des écorces donc naturelles. Et du coup, chaque osier a des caractéristiques mécaniques aussi différentes. Donc on a la couleur, on a la caractéristique mécanique, et en fonction d'en effet ce que je vais avoir envie d'exprimer, je vais m'orienter plus sur l'un ou sur l'autre des osiers qui sont à ma disposition. Mais ouais, j'ai des préférences aussi dans le choix de l'osier que je vais utiliser et des contrastes aussi en associant différentes couleurs l'une avec l'autre aussi, voilà. Mais ça, oui, la pièce, quand elle est dans ma tête, elle est à peu près déjà en couleur.
D'accord. Dans cette partie plus personnelle, on va dire, apparaissent aussi d'autres matériaux. Même si le rapport à la nature est toujours aussi évident, puisqu'on y voit comme des racines, comme des choses qui se développent, d'autres matériaux apparaissent. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Alors, du coup, j'ai travaillé en duo avec un céramiste, notamment, avec Emmanuel Pécat. On avait fait 4 pièces de bonne envergure ensemble. Donc on avait associé la terre, la céramique, avec l'osier. Il peut y avoir aussi du cuir à l'intérieur de certaines pièces qu'on va travailler aussi à l'atelier, qu'on va teinter pour pouvoir installer dans les pièces. Mais c'est vraiment un travail du cuir qui sert la vannerie, quoi. On ne développe pas du tout le travail du cuir en dehors de ça. C'est que pour la vannerie, pour servir la vannerie. J'ai des pièces aussi, il y en a une où il y a un peu du fil de fer que j'ai moi-même tressé. Voilà, donc si j'ai besoin, je vais retresser d'autres matières. Il peut y avoir du bois aussi à l'intérieur. Voilà, donc du coup, en fin de compte, c'est en fonction de ce qu'on va exprimer ou en fonction des rencontres du coup qui vont se faire, ça va. Alors soit c'est la rencontre qui oriente les pièces, soit c'est le besoin d'expression qui va faire appel à la matière. Il y a deux façons de voir les choses.
Si c'est faire quelque chose d'humain, que de mettre une chose que vous voulez dans un sac, parce que cette chose est utile, comestible ou belle, de la placer dans un panier, dans de l'écorce, dans une feuille roulée, dans un filet tissé avec vos propres cheveux, ou dans tout ce que vous voulez. Et ensuite, de ramener à la maison cette chose-là, dans une maison qui n'est qu'une autre sorte de grande poche ou de grand sac, un contenant pour les gens. et que plus tard vous ressortez cette chose pour la manger, la partager, la conserver pour l'hiver dans un récipient plus solide, la mettre dans le sac médecine, sur l'autel ou dans le musée, à l'endroit vénéré, dans l'espace qui contient ce qui est sacré. Et que le lendemain, vous faites plus ou moins la même chose. Si faire cela est humain, si c'est cela qui l'en coûte, alors je suis un être humain après tout. Pleinement, librement, joyeusement, pour la première
alors,
fois.
Alors nous venons d'entendre le troisième document que vous vouliez nous soumettre, Émilie. Donc c'est un texte issu de La théorie de la fiction panier d'Ursula Le Guin, qui est romancière et poétesse américaine.
Alors du coup, moi, ce qui m'a parlé, bah, déjà il y a ce rapport, au, on l'a bien entendu dans le texte, au fait que le contenant, bah, déjà il a plusieurs fonctions. Il peut avoir la fonction de porter, il a la fonction de protéger, on va mettre des choses à l'intérieur qui nous sont précieuses, qu'on va pouvoir réutiliser, il a la fonction de conserver. Comme on l'a entendu, c'est même une maison, ça reste un contenant, ça reste un grand panier. Même dans certaines civilisations, les maisons sont des grandes vanneries, hein, en Afrique notamment, ou en Asie, on peut retrouver des maisons vanneries. Hein. Voilà, il y a vraiment ce côté-là de la protection et du rapport à l'objet qui est positif, où on va confier quelque chose à cet objet. Et du coup, dans toute cette la théorie du panier, de la fiction panier, ce qu'elle reprend, c'est l'idée d'une autre personne qui est Fisher, qui avait développé cette théorie et qui fait vraiment l'opposition entre aujourd'hui le récit, comment on l'a construit, le récit de l'humanité, on l'a construit à partir de l'arme. Du bâton, de la lance, de l'épée, voilà, de tout ce qui est glorieux, mais qui va aussi tuer, ensanglanter, sacrifier. Alors qu'en fin de compte, si on pouvait regarder l'évolution à travers ce contenant, ce qu'on a de précieux, qu'on veut protéger, qu'on va transporter, et puis qui va nous nourrir, parce qu'à l'intérieur, le plus précieux à la base, c'est ce qui va nous soigner, ce qui va nous nourrir, et nous abriter, voilà, c'est les trois fonctions vitales, hein, pour un être humain. Et bien du coup, on pourrait repenser complètement notre modèle de société. Et voilà, et c'est ça qui me plaît. Et du coup, même quand je vois un panier, hein, vraiment l'objet ou une corbeille, et ben c'est vraiment ça qui transparaît, c'est de se dire que à l'intérieur, on va placer des choses qui nous sont chères et qui nous sont importantes. Après, ça peut être un panier tressé en osier, comme une écorce, comme n'importe quoi. Mais voilà, vraiment ce rapport au contenant.
Merci, Émilie. Je pense que après ce que vous venez de nous dire, on regardera les paniers différemment.
Ah, c'est possible.
Pour revenir à votre pratique quotidienne, vous avez à la fois besoin de répondre à des demandes très précises, j'imagine, de dimension, de volume, et parfois vous avez davantage de liberté. Où allez-vous puiser l'inspiration dont vous avez besoin quand la commande est soit très vague ou alors émane simplement de votre intérieur et du désir de faire naître des formes?
Alors, des envies et des inspirations, j'en ai plein, j'en ai trop. Voilà, c'est dans ma tête, c'est souvent il y a trop de choses et je suis obligée de faire des choix parce que le temps manque. Mais c'est souvent des émotions. Moi, ça part d'une émotion. Ça peut être une émotion par rapport à quelque chose que j'aurais vu en milieu naturel qui va m'avoir vraiment impacté, touché. Ça a été le cas de voir la première tortue marine nager devant moi. Bah voilà, c'est un monde sous-marin silencieux, où tout est calme, tout est lent, et puis cette tortue qui est lente, qui peut aller vite d'un coup, mais dans la fluidité, bah, ouais, pour moi ça a été une grosse émotion, et bah, de là sont nées des pièces comme les éponges, les cactus, voilà, ce côté-là que j'ai développé. Ça peut être aussi bah, tout ce qui est au niveau du volcan, l'envie d'exprimer ça, ce rapport à l'humain aussi, parce que bah, des fois il est dur l'humain, quoi, enfin... Même moi-même, hein, dans mon rapport aux autres, hein, ça peut être des fois on n'est pas cohérent ou on peut avoir une explosion, quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé qui est sorti, outil comme ça et qu'est-ce qu'on en fait après, quoi? Est-ce qu'on essaie de transformer en quelque chose qui fertilise un peu? Est-ce que ça finit de tout détruire? Et bah, du coup, des fois, quand il n'y a pas les réponses humaines, et bah, le fait de les tresser, ça peut permettre de libérer certaines choses aussi. Et puis là, c'est une série sur laquelle j'ai juste commencé à travailler, mais j'aimerais vraiment, vraiment consacrer du temps là-dessus, sur les murs. Et là, c'est plus un regard sur notre société. C'est un peu des regards sur la société quand même, hein. Soit sur la société, soit sur la façon de s'en échapper, hein. Mais du coup, toutes les murs qu'on construit. Et là, c'est pareil. Le mur, c'est un peu, ça peut être une barrière, ça peut être protecteur aussi. Donc, il y a toujours des ambivalences. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est ça. C'est l'ambivalence. C'est jamais tout noir ou tout blanc, et on peut toujours sortir quelque chose du noir ou du blanc, quoi.
Thank you.
Alors, voilà, nous voilà de retour sur Terre. Nous venons d'écouter Kumi Singing
de Shinko Nanchilak.
Merci de l'avoir prononcé pour moi. Du coup, Émilie, pourriez-vous nous dire quelques mots de cette chanteuse qui est née dans un désert perdu entre la Mongolie et la Russie, voilà, j'ai cherché, merci, qui a un parcours un peu particulier, donc pourriez-vous nous la présenter?
Oui, bah c'est une artiste, elle est russe, hein, elle est originaire de Russie, et du coup elle maîtrise, elle est très très éclectique, elle maîtrise notamment le chant diphonique, qui est une technique particulière de chant où on va chanter avec la gorge et où on peut avoir deux voix. Il y a même des personnes qui arrivent à faire trois voix avec leur gorge. Et c'est des chants qui, à la base, étaient utilisés plus pour tout ce qui est chamanique, maintenant qui se sont un petit peu plus développés, même pour les fêtes festives, qui avaient été un petit peu oubliés quand la Russie avait vraiment mis la main sur la Mongolie, et puis qui culturellement sont revenus. Et elle le fait découvrir par sa pratique, parce que souvent, c'est plus des personnes qui vont le pratiquer de façon traditionnelle. Et elle, c'est une artiste qui est internationalement connue maintenant, même si elle reste peu connue, parce que c'est particulier, dans le sens où il va y avoir des albums qui vont être très accessibles, et puis des albums beaucoup plus expérimentaux avec des... Elle a travaillé toute seule, mais elle a travaillé aussi avec toutes les cultures du monde. On peut l'entendre chanter avec d'autres artistes africains, syriens, du Maghreb, voilà. Et à chaque fois, elle est présente, elle répond à l'appel. Et voilà, donc c'est... Tout le monde n'aime pas, ça peut-être certaines personnes ça leur parle pas, mais vraiment moi ce chant là qui arrive de l'intérieur, je le trouve prenant, émotionnellement prenant.
Ça nous rappelle un peu le premier son, un des premiers sons qu'on a entendu, le chant de la terre du volcan.
On est dans ça, hein, dans quelque chose qui s'exprime vraiment du plus profond et qui ressort quoi, qui a besoin de sortir pour vivre.
Et comme vous, elle a arpenté la terre en y puisant son inspiration.
Complètement, ouais, certainement plus même.
Ben, probablement, quand on est artiste, ouais. On est amené à se produire aux quatre coins du monde. Qu'est-ce qui, chez cet artiste, peut vous inspirer au-delà de son parcours, de sa personnalité? Comment ce qu'on vient d'entendre peut se retrouver dans votre travail, par exemple?
Moi, quand je l'entends, alors tout le temps quand j'entends des choses, j'ai des images. C'est des fois problématique. J'entends les nouvelles à la radio, j'ai les images qui viennent dans ma tête. Ça reste pas juste des mots. Et du coup, elle, quand je l'entends, j'ai des paysages immenses qui s'ouvrent. Des montagnes et des paysages immenses. Et c'est ça, du coup, qui me fait vibrer, quoi. C'est que ça part vraiment de l'intérieur, mais que ça ouvre à l'immensité. Je rêve de la Mongolie, alors peut-être ça me plonge dans ce rêve-là aussi, quoi. Et voilà.
Très bien. On va revenir au sein de votre atelier où nous sommes. Vous avez une activité de formatrice également. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps et de quelle manière ça peut agir en retour ce contact avec d'autres auprès de qui vous transmettez votre savoir-faire, comment ça peut agir sur votre propre pratique?
Alors du coup oui, j'ai cette activité là de formatrice. À la base j'ai pas forcément cherché à vouloir être formatrice, hein. C'est juste qu'on m'a demandé si je pouvais, que j'ai accepté, et puis de fil en aiguille, c'est devenu un peu plus sérieux, et aujourd'hui, je suis un organisme de formation, vraiment. Donc, je peux avoir des personnes qui viennent juste s'initier à la vannerie, comme des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle, donc c'est sur un accompagnement plus long. L'équilibre que j'y trouve, donc je forme aux techniques traditionnelles de vannerie, je ne forme pas au côté artistique, ou parce que pour moi, ça, c'est une démarche personnelle et je suis incapable déjà de... Enfin, quand je travaille, moi, sur ça, j'analyse pas ce que je fais, c'est de l'émotionnel, c'est donc que je ne pourrais pas former à ça. Donc, je forme aux gestes de vannerie pour qu'après, chacun puisse en faire ce qu'il en a envie. Et du coup, l'équilibre, c'est que souvent, on est tout seul dans son atelier. Donc, le fait de recevoir des stagiaires, bah, ça ouvre un petit peu, voilà, ça permet de diffuser un petit peu son savoir-faire déjà pour le proposer à d'autres, de pas le garder que pour soi. Et puis, ça permet aussi de simplement d'être en contact et en interaction avec d'autres personnes, parce que sinon, on peut vite s'isoler. Ce qui me gêne pas, d'être seule. Mais du coup, bah, ça permet de retrouver un petit peu un équilibre pour pas que je finisse dans une grotte complètement toute seule, quoi.
Bien entendu. Ouais. Donc là aussi, on a des choses qui se complètent, j'imagine, souvent de manière harmonieuse, mais parfois avec des charges de travail qui peuvent se cumuler et vous mettre un peu dans le rouge.
Ouais, ça c'est un peu ma problématique, c'est que j'aime faire trop de choses et ces choses, elles demandent trop de soit d'administratif, soit de compétences différentes, quoi. Et le fait de faire aussi bien, ne serait-ce que par exemple de l'utilitaire et de la création, c'est deux circuits de vente différents, donc c'est deux démarches différentes. Le fait de faire de la formation, c'est encore autre chose. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un gros travail, enfin un temps quand même assez important sur tout l'à côté de la pratique. Et c'est des fois un peu ce qui peut me frustrer, c'est qu'il y a des fois, pour le coup, j'aimerais bien partir 3 mois dans une grotte avec mes bottes d'osier et ressortir que quand j'aurai tout tressé. Ça arrivera peut-être un jour, hein, de me faire une petite session d'ermitage comme ça, où je pars avec mon osier, et tant que j'ai pas fini tout ce que j'ai emmené, j'en ressors pas. Voilà. Pour justement enlever tout... C'est pas que c'est parasite, hein, ça fait partie du métier, hein, mais tout là côté qui n'est pas du tressage, quoi.
On vous le souhaite, d'arriver à trouver ce temps, effectivement, quand on est engagé de manière aussi intense comme vous l'êtes dans une activité artistique... On imagine qu'on a envie de s'y jeter à corps perdu. Vous avez une actualité en ce moment qui sera une exposition collective au château de Vaugubé, une biennale des métiers d'art. Vous pouvez nous en dire un mot, peut-être, comment ça s'est fait, ce projet, et avec qui
Oui. Alors du coup, c'est l'association Trajectoire, qui est une association du Sud-Ardèche des métiers d'art, qui porte ce projet, qui porte différents projets, dont celui-ci, et qui, dans l'idée, c'est que il y a beaucoup de savoir-faire autour des métiers d'art en Ardèche, et que c'est important qu'on puisse les montrer, les valoriser, et être présent du coup sur la scène. Et donc ils ont créé cette biennale, ça fait déjà c'est la 4e édition qui va avoir lieu, et on présente tous des pièces de création ou des pièces d'exception pour montrer la vigueur notamment des métiers d'art sur l'Ardèche. Et donc c'est en partenariat avec bah du coup le château de Vaugué, Vivante Ardèche, voilà, qui met à disposition les lieux. Et on est 27 professionnels des métiers d'art à être présents. Et du coup, il y a toujours un invité d'honneur qui va présenter son travail. Là, c'est une plumassière qui sera présente. Janaïna Minero. Wow. Janaïna Minero. Et du coup, voilà, elle présentera aussi une conférence pour présenter son travail. Donc, il y a toujours, voilà, une personne extérieure qui est invitée. Donc, du coup, ça dure, la biennale, elle dure du 10 au 14 novembre au château de Vaugué.
Il y a des horaires d'ouverture, je suppose.
Oui, c'est ouvert de 10h à 18h. Mais l'entrée est gratuite et ils vendent un catalogue... sur place d'exposition, où du coup ça permet d'avoir tous les artisans d'art qui sont présents référencés avec leur travail.
D'accord, c'est noté. Eh bien écoutez, Émilie, merci beaucoup pour nous avoir ouvert sur cet art si ancien et si riche de la vannerie. Donc pour ceux qui n'auront pas pu aller au château de Vaugué, peut-être vous ouvrez votre atelier à certains moments.
L'atelier est ouvert au public, oui. Il est ouvert les lundis, mardis et à la journée, les mercredis et jeudis matin. Après, j'y suis quasiment tout le temps, mais je me réserve des moments aussi sans accueil de public. Mais voilà, après les autres fois, il faut me contacter pour prendre un rendez-vous. S'il y a des moments où c'est... bien de se mettre dans sa bulle. pour tresser.
Et si on veut découvrir votre travail, vous avez un site, je crois.
Oui, il y a un site internet www.atelierarchel.fr sur lequel vous pourrez retrouver mon travail, les horaires d'ouverture et comment venir jusqu'à l'atelier.
Qui est juste à côté de la vallée du Rhône.
Ouais.
À quelques kilomètres de Sarras et Saint-Vallier.
C'est ça, au-dessus de, sur le petit plateau qui est au-dessus de Sarras avec une très belle vue sur les montagnes.
Encore une fois, merci Émilie pour l'accueil chaleureux et tout ce que vous avez pu nous dire. Et bah, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Ars Materia, une émission proposée par Jean-Luc Boiré. Merci à Karina et Sylvie pour le soutien technique, à Jean-Christophe pour le générique, à Isabelle, Sylvie, Brigitte, Fanny, Antoine et Daniel pour les voix. Lecture du texte d'Ursula Le Guin par Fanny Lisieux. Le mois prochain, nous rendrons visite à la céramiste Audrey Balakini.